Place Info.
Bonjour Eva Darlan.
Bonjour.
Et bonjour Sophie Soubiran.
Bonjour.
Merci à toutes les deux d'avoir accepté l'invitation de France Info. On va parler jusqu'à 9h de ce Grenelle des violences conjugales qui va donc débuter tout à l'heure à Matignon, qui va durer 3 mois. On va évoquer les pistes également pour mettre fin à ce fléau. 101 femmes tuées par leur compagnon ou leur mari depuis le début de l'année. D'abord un mot sur la forme, si vous voulez bien, de ce rendez-vous à Matignon. Est-ce que vous saluez son organisation et une vraie volonté politique de mettre fin enfin à cette hécatombe, Eva Darlan?
C'est-à-dire que moi, je trouve que le Grenelle n'a pas lieu d'être. Donc, évidemment, je vais répondre un peu à côté de votre question. Ils savent tout de ce qu'il faut faire. J'ai personnellement donné des dossiers extrêmement pointus qui avaient été faits par le Haut Conseil à l'égalité, avec des études, dont la Fondation des Femmes d'ailleurs, avec des études chiffrées. La Convention d'Istanbul existe, les projets de loi cadre existent, tout existe. Tout, voilà, pourquoi faire un Grenelle? Il suffit d'appliquer déjà les lois existantes et ensuite de se conformer à ce que demandent les associations. C'était pas la peine de faire tout ce bazar, parce que depuis que ce bazar a été mis en route en juillet, ben des femmes sont mortes. Voilà, il aurait mieux fait d'appliquer, il aurait mieux valu d'appliquer des lois, ça aurait peut-être sauvé des vies.
Sophie Soubiran.
Écoutez, moi je comprends parfaitement le désespoir. Je comprends le scepticisme et objectivement la situation est désespérante. Sans une femme depuis le début de l'année, c'est absolument désespérant. Simplement, une fois qu'on a fait ce constat de désespoir sur lequel nous sommes tous d'accord, je crois que à la Fondation, nous nous sommes dit, mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous ne pouvons pas ne pas essayer. On a la possibilité, le gouvernement a la possibilité historique d'enfin mettre sur la table le budget dont on a besoin pour lutter contre ces violences, d'enfin permettre l'application des mesures qui, il est vrai, pour la plupart sont connues. Saisissons cette possibilité et
donc vous y
allons
serez.
Au Grenelle et oui. Faisons nos propositions, qui sont les propositions des professionnels de la justice et des associations qui, pour certaines, sont déjà appliquées dans certains territoires, mais qui doivent l'être à une échelle bien supérieure.
On va venir sur les pistes qui sont envisagées et sur ce qui se fait aussi à l'étranger. Certains pays comme l'Espagne sont régulièrement montrés du doigt pour ce qu'ils ont fait depuis une dizaine d'années déjà, avec des résultats concrets. Renaud Dely.
Eva Darlan, vous pointiez à l'instant une forme de passivité, d'attentisme de la part des plus hautes autorités de l'État. Vous remettez même en cause la justification de ce Grenelle. La faute à qui? Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est simplement la faute des politiques, des gouvernants, ou est-ce que c'est au-delà, de toute façon, une forme d'aveuglement de la société par rapport à un fléau que jusqu'à présent, on n'a peut-être pas voulu regarder en face?
C'est-à-dire que la société, elle répond quand on lui fait des propositions. Hein. Je veux dire que la volonté politique, évidemment, elle n'est pas présente sur ce problème gravissime de la protection de la moitié de la population. Quand Macron est arrivé au pouvoir, il s'est présenté devant les armées, et c'est très bien, c'est parfait, je n'ai rien à dire à ça. Il s'est présenté devant l'armée, il a donné un budget énorme à l'armée, et puis, comme il fallait bien faire quelque chose pour nous, qui faisons quand même un peu de bruit, il a donné la grande cause nationale. Il ne s'est rien passé depuis.
La grande cause nationale, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes, est effectivement la grande cause nationale du quinquennat définie
par
le président.
Oui, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé depuis, c'est-à-dire pas grand-chose. On a rétrogradé du ministère au secrétariat d'État, et puis après, il y a eu des effets d'annonce permanents, les unes derrière les autres, et jamais, on n'a jamais pris... On a 0,007% du budget national. Évidemment qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. S'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas une volonté politique derrière ça pour donner de l'argent et donner des moyens, évidemment qu'on stagne et on n'avance pas. Ce qui a été le cas jusqu'à présent.
Un cas concret, si vous voulez bien, pour lancer ce débat, Renaud Dely, avec ce qui s'est passé ces derniers jours à Cagnes-sur-Mer. Vous nous allez, Renaud, si vous voulez bien, d'abord nous rappeler les faits.
À Cagnes-sur-Mer, le centième féminicide depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, a eu lieu au cours du week-end, où une jeune femme a été retrouvée assassinée sur un parking. Et visiblement, donc, c'est son compagnon qui serait, en tout cas, qui est suspecté d'être l'auteur de ces violences. Dans ce cas précis, l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, a été saisie pour essayer de préciser les conditions d'intervention de la patrouille qui avait été dépêchée dans la nuit et qui, lorsqu'elle s'était rendue sur les lieux, n'avait, je cite, trouvé aucun élément relatif à l'agression. Sophie Soubiran, est-ce que ça veut dire qu'il faut d'abord mettre en cause, est-ce qu'il y a une mise en cause de la façon dont la police travaille déjà sur ces affaires? Est-ce qu'il y a parfois une incapacité à prendre en compte, à tenir compte de la parole des femmes victimes, que ce soit donc lors de ce type d'intervention, ce qui s'est produit à Cagnes-sur-Mer ce week-end, ou lors du dépôt des plaintes? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des dysfonctionnements dans la police à vos yeux?
Il y a nécessairement des dysfonctionnements quand on entend ce genre de cas, et quand on entend, je connais pas le dossier outre ce qui a été dit, ce qui en a été rapporté dans les médias, mais quand on entend cette femme, cette voisine nous dire qu'elle était au téléphone avec la police et qu'elle signalait, qu'elle alertait sur le fait que sa voisine était en train de se faire massacrer, et que les officiers, enfin, et que l'ordre n'a pas été donné d'intervenir, on peut pas penser qu'il n'y a pas un dysfonctionnement à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous demandons que des enquêtes soient ouvertes systématiquement pour l'ensemble des cas de féminicide qui ont eu lieu depuis le début de l'année, pour comprendre ce qui dysfonctionne. Après, vous posez la question plus généralement, j'allais dire, de la culture judiciaire, et du fait qu'effectivement, et ça c'est un véritable problème, et on le répète, et il faut le répéter, les policiers n'ont pas le droit de ne pas prendre une plainte.
Mais il faut mieux les former, il faut mettre l'accent sur la formation des policiers justement pour ce recueil des plaintes.
C'est une partie du problème, bien sûr, mais en réalité, c'est vraiment le paradigme judiciaire dans son ensemble qui doit bouger. Demain, une victime d'agression s'est faite frapper dans la rue par quelqu'un et va porter plainte au commissariat, il y aura une enquête à charge et à décharge, bien sûr, c'est comme ça que fonctionne la procédure pénale et c'est normal, mais on prendra sa plainte. On ne commencera pas par lui appliquer une présomption de mensonge. Et en réalité, pour ces femmes qui vont porter plainte dans les cas de violence conjugale, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans la majorité des cas, et c'est ce qui s'est passé pour la plupart des féminicides.
Sophie Soubiran, avocate et membre de la Fondation des Femmes, Eva Darlan, vous restez avec nous, on va s'interrompre quelques instants, et puis dans une minute, les solutions, en tout cas les pistes qui sont envisagées pour tenter de mettre fin à ces féminicides. D'abord, le rappel de l'actualité, si vous nous rejoignez à l'instant, c'est Lauriane Delanoë, il est 8h40.
Comme si le vent n'allait jamais s'arrêter, l'ouragan Dorian s'accroche sur les Bahamas encore ce matin. Au moins 5 morts dans l'archipel, une vingtaine de blessés et 70 à 75 000 sinistrés d'après un ministre joint par France Info. L'ouragan Dorian qui faiblit un peu, rétrogradé en catégorie 3 sur 5. Sur France Info ce matin, des associations et collectifs comme Nous Toutes, La Barbe et Oser le Féminisme demandent plus de moyens contre les violences faites aux femmes, un budget d'1 milliard d'euros. Le Grenelle des violences conjugales s'ouvre aujourd'hui autour du Premier ministre à Matignon. De Renault-Nissan à PSA, Arnaud Debeuf, ancien de la direction du constructeur aux losanges du temps de Carlos Ghosn, rejoint Peugeot à la direction de la stratégie industrielle. Plus d'1 300 000 billets vendus en 5 mois, le chiffre étourdissant de l'exposition sur Toutankhamon, en ce moment à la Villette à Paris, la plus visitée de France. Elle bat le précédent record déjà pour une expo consacrée au pharaon, c'était en 1967.
France Info. Et tout est plus clair.
On parlait de la police il y a quelques instants, je voudrais qu'on parle également de la justice. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, dit ce matin dans Le Parisien qu'il existe un dispositif qu'on connaît, dont on parle ces derniers mois, c'est le téléphone grand danger qui est fourni aux femmes. Je l'ai mal appelé ?
Grave danger, pardon.
Qui est fourni aux femmes. Il en existe, dit la secrétaire d'État dans les colonnes du Parisien. Aujourd'hui en France, 756 de ces appareils en France, mais, apprend-on, les deux tiers ne sont tout simplement pas distribué, pas donné aux femmes à cause des décisions de justice. Le problème, il n'est pas uniquement dans l'enregistrement des plaintes dans les commissariats
aussi,
et dans les casernes.
Il est aussi dans les actes des magistrats. Si les magistrats ne poursuivent pas, le dossier reste dans le tiroir. Et pas mal de magistrats ne poursuivent pas. J'ai pour exemple ce qui s'est passé il y a 3 jours à Brive-la-Gaillarde, et c'est quelque chose d'absolument exemplaire. Il y a un procureur qui s'appelle Yvan Le Bris qui, sans aucune plainte de la victime, a poursuivi un jeune homme qui avait massacré sa compagne enceinte de 7 mois, et la petite n'a pas voulu porter plainte, et elle n'a pas voulu, jamais elle a ouvert la bouche, jamais. Eh bien, il a pris ses responsabilités, il a fait son métier et il a poursuivi. Et la juge a jugé et ce type a été condamné. Voilà, condamné à des soins aussi. Donc, voilà, quand les gens font leur travail, évidemment que ça va beaucoup mieux. Donc il y a peut-être pas besoin de grand tralala derrière pour dire hein, on va se réunir et on va dire comment il faut faire, etc. Il faut juste que les gens soient un peu impliqués.
Sophie Soubiran, sans faire le procès de la justice, il ne s'agit pas évidemment de le faire, pourquoi cette frilosité ?
C'est très intéressant ce qui vient d'être dit sur le rôle du parquet. Il faut comprendre qu'effectivement, la procédure pénale, ce n'est pas une procédure entre une femme et son mari, ce n'est pas une procédure entre une victime et un auteur de violence. C'est la société qui va, à un moment donné, décider que tel type de violence, tel type d'acte est inacceptable, est impossible à supporter et qu'il faut lutter contre et qu'il faut protéger les personnes, y compris contre leur gré, y compris si elles n'ont pas la force ou n'ont pas les moyens de le faire.
Comment est-ce qu'on protège une victime contre son gré ?
Eh bien, comme ça.
Eh bien, comme ça, exactement. Bon. Il se trouve que le parquet a la possibilité de s'auto-saisir, à la fois pour les ordonnances de protection, ce qui relève de la justice civile, mais qui donne des mesures de protection qui peuvent effectivement venir s'articuler avec les mesures de protection pénale. Donc ça, c'est très important et ça n'est jamais fait en pratique. C'est-à-dire que le procureur ne s'auto-saisit pas en France et ne saisit pas le juge aux affaires familiales pour rendre des ordonnances de protection. Et ça, c'est une partie des pistes, c'est une partie des éléments de politique pénale, en fait, qui relève d'une volonté. Vraiment,
parce qu'aujourd'hui, la grande majorité des femmes qui sont victimes de violences conjugales ne portent pas plainte. On sait qu'il y a quoi, moins de 20% des femmes qui finalement font la démarche d'aller porter plainte. Donc vous dites c'est à la justice de suppléer justement leur peur, ce qui les empêche de porter plainte, et de diligenter des poursuites.
Mais il y a plusieurs aspects dans votre question. D'abord, je crois que si la justice montre que lorsqu'une femme va porter plainte, il se passe quelque chose et qu'elle est protégée, alors il y aura sûrement beaucoup plus de femmes qui iront solliciter cette protection. Parce qu'effectivement, c'est déjà un pas qui est tellement difficile à faire, de passer la porte du commissariat pour dire « mon mari, l'homme que j'aime ou que j'ai aimé ou mon ex-conjoint m'a violenté », que si en plus on pense qu'il ne va rien se passer, et c'est ce qui se passe concrètement, malheureusement encore trop, alors ça peut pas fonctionner. Donc effectivement, ça doit marcher, ça doit fonctionner dans ce sens-là. Après, bien sûr, il y a la question de comment concrètement on met en place la procédure et on applique la procédure.
Dans les 101 femmes, il y a 30% de femmes qui avaient déjà porté plainte, certaines plusieurs fois, et 20% des mecs qui étaient connus des services de police. Et alors, on ne fait rien. Tout a été classé, passé sous silence, pas de poursuite, rien. Mais ces femmes sont mortes. Je veux dire, il y a des gens qui sont responsables de ça quand même. Que ce soit au gouvernement, que ce soit dans les commissariats, que ce soit dans les magistrats, ils sont responsables de ces morts. Comment ils font pour dormir maintenant? Ben voilà, ça continue, allez, on classe, c'est pas grave. Il faut que ça s'arrête. Et ça, c'est juste appliquer les lois. Il faut que ça s'arrête. Il faut évidemment aussi protéger ces femmes en excluant immédiatement le conjoint du domicile et puis le soigner, lui mettre tout de suite Le bracelet,
comme ça se fait en Espagne, 1200 hommes le portent quotidiennement. Est-ce qu'on sait combien en France le porte, ce bracelet, qui est censé biper et prévenir les forces de l'ordre quand il s'approche de sa victime potentielle? On a le chiffre en France?
Alors là, je l'ai pas immédiatement, mais en tout cas, c'est une mesure qui est encore, dont on nous dit qu'elle est encore à l'état d'essai et d'investigation. Or, elle pourrait être quand même mise en place depuis beaucoup plus longtemps. Donc ça fait partie des mesures.
Pour vous.
Oui, en fait, voilà. La question, c'est qu'il faut pas confondre la protection et la nécessité de mettre en place des mesures de protection tout de suite, immédiatement, dans l'urgence, et la question de la sanction qui doit être pensée, réfléchie ensuite avec tous les aspects de la sanction, à savoir aussi et surtout d'ailleurs éviter la récidive. Donc ça, c'est une autre partie de la réflexion qui doit faire partie d'ailleurs, et nous l'espérons, des mesures globales qui vont être appliquées.
Le bracelet électronique, donc si je vous suis bien, il ne faut pas attendre la condamnation.
Non.
C'est dès le dépôt de plainte de
tout
la victime,
de suite,
dès qu'il y a une menace. Et pas
bien sûr, parce que sinon, une fois que la plainte est déposée, en général, qu'est-ce qui se passe? On dit, bon ben voilà, rentrez chez vous, mais si elle rentre chez elle, je veux dire, elle se fait massacrer, donc il faut immédiatement extraire cet homme. L'extraire et puis le soigner tout de suite et lui mettre le bracelet.
Vous pointiez tout à l'heure l'inaction du gouvernement, vous critiquiez notamment Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle était notre invitée, ici même, il y a quelques jours, la semaine dernière sur ce plateau, et elle défendait l'action du gouvernement depuis l'élection d'Emmanuel Macron sur ce dossier. On l'écoute.
Depuis 2 ans, nous agissons, nous avons pris toute la mesure de ce phénomène et de ce fléau. Donc, nous avons créé une plateforme de dialogue avec les policiers et les gendarmes, qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons donné un objectif au numéro du 3919 de répondre à 100% des appels, en augmentant considérablement les moyens qui vont avec.
Elle est de bonne volonté, Marlène Schiappa, Eva Darlan, pourquoi vous ne la soutenez pas ?
Parce que elle ne fait rien, ça c'est rien, c'est pas attaquer le problème à la racine. Et puis Marlène Schiappa n'est pas décisionnaire, c'est ça le problème. On peut pas non plus s'attaquer à Marlène Schiappa, c'est pas elle. Elle est une exécutante à sa façon, en faisant beaucoup de bruit d'ailleurs. Mais et on croit que c'est formidable. La preuve, non, c'est pas formidable. Les femmes meurent toujours. Maintenant, c'est en augmentation. C'est une tous les 2 jours. Donc la preuve qu'il n'y a rien été fait. Si on répond au téléphone, on pas au 3919, et après, qu'est-ce qui se passe? Le 3919 va dire on retombe dans le cercle infernal.
Lorsqu'une femme victime de violence appelle le 3919, qu'est-ce qui se passe?
On lui dit d'aller porter plainte, voilà.
C'est
et
tout.
Puis ça recommence.
C'est
tout. Moi, je n'ai pas fait l'étude et le reportage de passer une journée au 3919, mais c'est ça, leur accompagnement, c'est ça.
Sophie Soubiran, c'est un numéro de téléphone utile ou pas?
C'est bien sûr tout
évidemment.
toutes les mesures qui
bien
visent
sûr.
À permettre aux femmes de détecter, de savoir que ce qu'elles vivent n'est pas normal et est interdit par la loi, sont bien sûr des mesures qu'il faut soutenir. Et d'ailleurs, parmi les propositions et parmi les demandes que nous avons sur la demande de budget complémentaire, il y a également le fait que la plateforme puisse être réellement efficace. Alors c'est, Madame Schiappa dit que c'est le cas et que ce serait une ouverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je ne sais pas si c'est le cas sur l'ensemble du territoire. Actuellement, on peut quand même douter de l'efficacité puisque, encore une fois, oui, nous sommes à 101 femmes tuées aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est bien sûr, tout est utile. Simplement, il faut que ce soit cohérent, il faut que ce soit organisé de manière cohérente.
Sophie Soubiran, avocate et membre de la Fondation des Femmes, Eva Darlan, actrice engagée depuis des mois, on le sait, dans ce combat pour le droit des femmes et contre les féminicides, sont avec nous jusqu'à 9h. On va poursuivre, si vous voulez bien, dans quelques instants, parler de la question cruciale, sans doute de l'argent dans ce combat. Mais d'abord, l'actualité résumée par Lauriane Delanoë, il est 9h10 sur France Info.
Un numéro de téléphone à la une ce matin, le 3919, dédié aux femmes victimes de violences, alors que le gouvernement lance le Grenelle des violences conjugales. Des mesures doivent être annoncées dès aujourd'hui, comme probablement la mise en place de bracelets électroniques géolocalisés pour éloigner les conjoints violents de leurs victimes. Au moins 5 morts et des dégâts catastrophiques. Les rafales et pluies de Dorian ravagent les îles des Bahamas ce matin encore. L'ouragan a un peu perdu en intensité dans la nuit. Les services météo américains le rétrogradent en catégorie 3 sur 5, à des vents toujours à 200 km/h. L'Iran, opposé par principe à des discussions à deux avec les États-Unis, le président iranien Hassan Rouhani l'affirme ce matin et prévient qu'il pourrait ignorer encore un peu plus ses engagements de l'accord sur le nucléaire en cas d'échec des discussions en cours avec les pays européens. Le jeu facile de Gaël Monfils, le français qualifié cette nuit pour les quarts de finale de l'US Open grâce à sa victoire face à l'espagnol Pablo Andújar. Le français va maintenant affronter l'italien Matteo Berrettini, 25e du tennis mondial.
France Info. Et tout est plus clair.
Le Grenelle contre les violences conjugales qui débute donc cet après-midi à Matignon. C'est parti pour 3 mois de discussion et on l'espère de mesures. Voici ce qu'on disait il y a quelques jours, la députée de la France Insoumise, Clémentine Autain, sur ce même plateau.
Le budget aujourd'hui qui est consacré aux violences est totalement ridicule. 0,0, hein, voilà, on en est là. Et ce gouvernement, particulièrement Marlène Schiappa, est tout à fait spécialiste de faire des grandes annonces, de nous raconter qu'elle comprend tout à fait la situation, mais incapable, parce qu'il y a l'austérité budgétaire dans tous les domaines.
Sophie Soubiran, l'Espagne a mis 200 millions d'euros par an pour lutter contre les violences conjugales. Combien doit mettre la France ?
Alors, le chiffre qui a été établi, c'est 1 milliard. Nous avons besoin d'un milliard.
Et... Un milliard par an ou un milliard non, sur un quinquennat ?
Non, c'est...
Un milliard par an.
Ouais.
Non, sur 5 ans.
Sur 5 ans, ouais, donc ouais. Ce serait l'enveloppe similaire à l'Espagne.
Ouais. Ce milliard, il est calculé sur le nombre de femmes victimes de violences. Il n'est pas calculé sur le nombre de femmes signalées. Mmh. C'est pour ça que vous avez soit la moitié,
nombre de
soit
femmes victimes de violences, arrêtez-moi ouais. si je me trompe, on est très loin des 101 féminicides, on parle de 200 000.
200 000, absolument.
Chaque année, victimes de violences, donc on voit qu'une infime minorité d'entre elles vont porter plainte.
Oui, c'est ça, ouais. Absolument.
Violence, on parle de violences physiques, de brimades.
Il n'y a pas de différence à faire. C'est ce qu'on a. Enfin, ça, c'est très important d'en parler parce que le continuum des violences, c'est le fait de comprendre, y compris au sein de l'institution judiciaire, qu'en réalité, il n'y a pas la petite brimade, la petite bousculade qui n'est pas grave, et la personne qui vient avec un cocard et elle, alors on doit la prendre en considération parce qu'en réalité, le premier coup, en général, il n'arrive pas par plaisir de donner un coup et pas immédiatement. Le premier coup, il arrive parce que justement la mise en place de tous les mécanismes d'emprise qui ont eu lieu avant n'est plus suffisante pour assurer l'emprise. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles, bien sûr, il faut continuer la formation et continuer les explications.
Renaud Dely.
Parmi les moyens nécessaires, il faut se mobiliser davantage, il faut donner davantage de moyens pour ce qui est des places dans les centres d'accueil, dans des places d'hébergement d'urgence. Eva Darlan, c'est une combien de places faudrait-il rapidement?
Je crois qu'il faudrait 5 000, c'est ça, hein, les places d'hébergement. 200 ont été promises par Madame Chapa, pardon, je ne l'attaque pas, mais c'est quand même elle qui l'a dit, en début d'été, et zéro place était effective à la fin de l'été, donc avant ce Grenelle. Il faut aussi, surtout, dans les hébergements, il faut quand même pouvoir s'occuper des hommes violents. Hein, je veux dire, il faut les extraire du domicile, bien évidemment.
Est-ce que c'est pas pour les coupables, pour les hommes violents, qu'il faudrait créer effectivement des centres dans lesquels ils seraient à la fois surveillés et soignés?
Mais bien sûr, parce que c'est quelque chose de terrible. Ces hommes-là, s'ils n'ont pas de soins, ils vont recommencer, ils vont au contraire se nourrir de cette injustice d'avoir été punis, alors que franchement, c'est de sa faute à elle. Il faut absolument les soigner, il faut les mettre dans des centres, il faut les entourer d'éducateurs, de psychologues, pour ensuite pouvoir les réinsérer. Et pourquoi pas éventuellement avec cette femme-là qui, au début, il y a eu peut-être un mauvais départ, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut s'occuper d'eux absolument. Et pour l'instant, rien n'est fait. Hein.
Nous chiffrons à 2 000 le nombre de places nécessaires pour le moment.
Pour les hommes violents.
Nombre de places d'hébergement. Ce qui est important de comprendre, c'est que les deux logiques ne s'opposent pas. Il ne s'agit pas de dire, bien sûr, qu'on veut mettre les femmes dehors. Simplement, il y a quelque chose de très concret que moi, je peux voir dans mes dossiers. Évidemment que par principe, on a envie que ce soit l'homme violent qui soit évincé du domicile. Et c'est d'ailleurs le sens des ordonnances de protection. Le problème, c'est que vous avez d'abord des femmes qui veulent partir, qui ne veulent pas rester là. Et ensuite, vous avez le problème de l'adresse. C'est-à-dire qu'à partir moment où un homme connaît l'adresse, puisque c'est le domicile conjugal, il y a quand même le risque de réitération.
L'autre frein, pardon de vous interrompre.
D'où le bracelet.
L'autre frein, ça peut être aussi les enfants. Partir avec des enfants quand on veut quitter un homme qui frappe. Est-ce que les enfants, par exemple, sont pris en charge dans les centres d'hébergement?
Alors, quand on parle de place d'hébergement, en tout cas, ce qui est demandé, c'est d'ailleurs au sens de la Convention d'Istanbul, c'est effectivement des places d'hébergement pour les femmes et pour leurs enfants. Parce que peut-être on aura l'occasion de reparler, la question de la parentalité est cruciale dans
question
ces dossiers.
Question toute bête, si on est témoin, en tant que voisin, en tant que riverain, de scènes ou d'insultes ou de menaces, on fait quoi?
On appelle la police et puis on surveille qu'elle vienne bien. Hein. Je veux dire que ce sont les premiers à être sur le terrain. C'est la police et les gendarmes, à condition que la personne qui téléphone soit déterminée à ce qu'il y ait un répondant à sa demande. C'est-à-dire, on appelle la police et la police doit venir.
C'est important de créer le dialogue, de réussir, si c'est possible, si c'est quelqu'un qu'on connaît, hein, de poser des questions, de rappeler ce qui est légal et ce qui est possible ou pas. Mais simplement, il faut pas mettre à la charge de chaque citoyen des réactions et des choses qui doivent en réalité être prises en charge par les politiques publiques. Non. C'est pas possible de remettre sur une association ou sur une volonté individuelle.
Et on rappelle le numéro qui s'affiche derrière vous pour ceux qui nous suivent sur le canal 27 de la TNT, pardon pour les auditeurs de France Info, mais c'est pour ça que je suis là. Le 3919, donc ce numéro d'appel d'urgence qui fonctionne 24 heures sur 24.
En principe, c'est ce qui est indiqué.
Renaud Dely.
Vous évoquiez, Sophie Soubiran, les enfants qui sont souvent témoins et donc victimes aussi de ces violences conjugales. Quel doit être le rôle à vos yeux de l'éducation nationale, de l'école? Quel peut être le rôle de l'école? Est-ce qu'il faut Est-ce qu'il faut en parler aux enfants d'une façon ou d'une autre? Comment est-ce qu'on peut... est-ce que l'école aussi doit se charger de ce fléau et de le combattre?
Absolument, ça fait partie de ce qui est demandé, j'allais dire, au début de l'échelle et sur un temps long. Évidemment que c'est avec l'éducation qu'on arrivera aussi, et pas, encore une fois, j'insiste, pas dans l'urgence, mais sur le long terme, à insérer des politiques publiques efficaces là-dessus. On voit bien pour la sécurité routière d'ailleurs ce que ça a donné. Aujourd'hui, il y a chaque collégien a passé son passeport de sécurité routière, je crois que ça s'appelle comme ça, en cinquième et en troisième. Ça fait partie de l'éducation qui est donnée. Donc sur les violences faites aux femmes et sur l'égalité hommes-femmes d'une manière plus générale, parce qu'il ne faut pas prendre ça uniquement sous ce prisme-là. Il y a effectivement un gros travail à faire, et encore une fois,
juste dire que tant qu'il n'y aura pas égalité, il y aura violence. Donc il va falloir prendre le problème vraiment à sa racine complètement, en mettant pour l'instant une volonté politique.
Eva Darlan et Sophie Soubiran, merci beaucoup d'être venues ce matin sur France Info. Coup d'envoi donc de ce Grenelle cet après-midi à Matignon. Il s'achèvera à la fin du mois de novembre, et on va en parler très régulièrement sur les antennes de Radio France et de France Télévisions, mobilisés pour soutenir et obtenir des résultats, surtout, oui. Et rappeler ce numéro de téléphone, le 3919, si vous êtes témoin ou victime, bien évidemment, de ces violences. Merci à vous.